entre les coraux. Oh, et puis lui, la taillée.
Comme à l'accoutumée.
Nana, toi, yao.
Nous serons de nouveau de sortir.
Tarado, arur, arhei.
L'oreille est hardie.
Restez hardie, Moussaillon. Moussaillon. Moussaillon.
Patrice et Lydie Kozak.
Bienvenue dans l'émission où les cultures des Outre-mer s'entendent bien. Et pour bien s'entendre, il faut d'abord se rencontrer. Ça paraît évident dit comme ça, mais c'est loin d'être aussi simple. Prenez nos invités du jour, tous trois évoluant entre les mots, la déclamation, la musique. Mais si deux d'entre eux vivent dans l'océan Indien, le dernier est originaire, lui, de la Caraïbe. Ils se sont rencontrés à la faveur d'une invitation du musée du Quai Branly à Paris à partager le même plateau et à faire se rencontrer leur poésie si particulière à chacune, chacun d'entre eux. Si deux d'entre eux ont déjà cheminé ensemble, partageant les mêmes origines et les mêmes scènes, ils n'avaient jamais rencontré le troisième, pourtant frère d'armes et de larmes, puisque partageant une même histoire coloniale, un rapport parfois très compliqué avec la France, une relation très particulière entre créoles et français, une douleur mêlée à la douceur comme seule peut l'engendrer la poésie. Avec eux, entre la Réunion et Haïti, entre une génération et une autre, nous parlerons donc rencontres, échanges, transmissions, langues universelles et intimes, combats poétiques et politiques, cris de peine et de joie. Deux mots, quatre paroles et un trio dans cette oreille hardie avec la poétesse et chanteuse réunionnaise Anne Waro et le poète et écrivain haïtien Jean d'Amérique. Et pour commencer à tout seigneur, tout honneur, la parole toujours captivante d'un homme, porteur à lui seul de ce que représente le Maloya, entre poésie et chant ancestral, l'un des piliers des traditions culturelles de la Réunion, en créole et en français dans le texte, au creux de notre oreille cette semaine,
Daniel Waro.
Veillez, veillez, vivons là, tout mon cœur y bat pour la femme. Dans un doli chave, ventant les litres. Dans un doli chave.
C'est moi l'enfant au regard d'arc-en-ciel déchiré. C'est moi l'enfant aux yeux sombres, où dormaient des silences et des incendies. Vautré dans ma maison, j'avais l'âge de me taire, mais j'ai préféré hurler, au lieu de m'étouffer dans mes soupirs.
Les romances pour cadence d'un calotement mon âme, un balotement la mer. Les romances pour fiance, un maloyance mien.
Daniel Waro, bonjour.
Bonjour, que ça y dit.
J'ai assisté donc à ce moment assez fort entre votre compatriote poétesse réunionnaise Anne Waro et puis le poète et écrivain haïtien Jean d'Amérique. Qu'est-ce qui a d'abord prévalu à cette rencontre, on va dire, entre les créoles et aussi, qu'on le veuille ou non, une rencontre intergénérationnelle dont on entendait en fond sonore, en filigrane, une idée de transmission? Qu'est-ce qui a présidé à tout ça?
Déjà, Anne Waro nous connaît depuis avant, depuis longtemps. Il a commencé, il a fait tourner avec nous tout ça. Donc, ben, transmission, oui, à son manière à lui, il raconte son sentiment, son bonne douleur aussi, son bon rêve. Pour moi, il est logique. Hein, ben Marma, il prend en main. Il laisse à nous vieillir, mais ben, il ne laisse pas nous vieillir trop totalement. Il rend à nous encore vivants. Transmission, pour moi, c'est ça. Hein, c'est passe le vivant en l'autre. Et après, ben, l'invitation nous l'a gagné ici, t'es dans le cadre de créolité là. On l'a accepté, bien sûr, pour rencontrer haïtien, gens d'Amérique, avec son écriture, son... Moi, tu ne connais pas. Et il est vraiment, vraiment fort, il est vraiment gaillard. Raconter, ça fait l'effort. Là, on a répondu à l'invitation. On est content, on a fait ça.
Ça répond à quoi chez vous, cette rencontre des créoles? On va partir du point de départ. Ce moment s'appelait créolité, et donc était un point de rencontre entre au moins deux créoles. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, comme éventuellement nécessité?
Ben, nous n'avons l'histoire par rapport à la colonisation, par rapport au peuplement, par rapport au combat. Bon, nous, le peuplement, là, on oblige à nous se battre. Et, bon, on a l'esclavage, on a, bon, Haïti, là, le bonheur, la chexa, la révolté, plus que nous. dans les Antilles, en général, dans l'océan Indien, Maurice, La Réunion. D'une année, l'histoire, il est commun. Bon, on retombe en plus souvent sous la coupe française, sous la coupe coloniale, départementale aujourd'hui, et avec un fonctionnement où ça qu'il faut, il faut de toute façon nous les en minorité. Il faut nous défendre notre carré, pour notre langue, pour notre culture, pour tout ça-là. On fasse toute bonne concentration d'entreprise, concentration capitaliste, concentration à l'américanisme, le mondialisme, tout ça, il faut nous sauvegarder. Donc nous nous obligeons à réunir à nous, nous obligeons à rencontrer à nous, nous obligeons à essayer de faire la force avec nous-mêmes. Et il est intéressant de connaître que ça a été fait, que ça, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Maurice, Seychelles, tout ça, que ça a été fait. C'est quoi notre valeur, c'est quoi notre force, quoi il est notre combat et notre existence, mettre éclair un peu notre existence, là, nous avons besoin de faire ça.
Mais pour autant, est-ce que les artistes d'eux-mêmes décident de se réunir? Parce que ce moment-là, orchestré par le musée du Quai Branly, à l'invitation du musée du Quai Branly, ce moment-là, je vois finalement peu d'artistes d'eux-mêmes se réunir ensemble dans ces moments artistiques, poétiques et politiques.
Oui, ben, nous faut dans la logistique, il faut dans le moyen, il faut dans l'invitation, il faut dans la circonstance, tout ça. Là, moi, je me prépare pour rencontrer, souvent des fois. Sinon, c'est quand un moni vient à la réunion, ben, nous les croisons ensemble, ça, nous fait un bœuf ensemble. Moi, je n'ai pas trop rencontre pour dire, mais ça, qu'il rencontrer, créer vraiment un beau pays comme moi. Et moi, je suis plutôt tranquille avec ça que m'y fait, il est vrai, il est comme ça. Mais il n'est pas du tout un fermeture ou un refus fréquent des autres. Et
non, je n'ai pas parlé de fermeture, mais en tout cas, on pourrait se dire que pour toutes les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, cette nécessité d'être ensemble, parce qu'on a une histoire commune, des valeurs communes et des combats communs, on pourrait voir effectivement les artistes à l'occasion de disques, à l'occasion de tournées, à l'occasion de voilà, se réunir plus ensemble. Haïti, Martinique, Réunion, etc. Et ça se fait moins.
Oui, il fait pas assez. Bien sûr, il fait pas assez. Ben, il fait pas assez. Nous les loin, les vrais, nous les loin. Hein. C'est l'océan Indien à côté. Même à nous, avec Maurice, par exemple, l'île Maurice à côté, nous les prêts, nous les cousins, nous les tout ça qu'on nous dit tout le temps. D'après une barrière à la langue, de toute façon, on a le Sega, nous les proches, on a un tas de raisons pour nous retrouver. Depuis longtemps, nous connaissons Sega Mauricien. Donc, avec Maurice, quand même, on a plus facilement. Et ce groupe Maurice, il vient à la Réunion. Le logistique est plutôt dans un sens. C'est la Réunion, on a le moyen, on a le festival, on a Solo, on a tout ça. Donc on a plus rencontres comme ça qu'avec plus loin les Antilles, Caraïbes, tout ça là. Les vrais. Mais les vrais, il faut faire condition, il faut pousser pour rencontrer, pour prendre l'air avec les autres. Nous là pour apprendre avec les Antilles là pour apprendre avec nous. Nous là pour échanger, les vrais. Mais il faut moyen politique, il y en a des subventions, on a des aides pour faire voyager tout ça, le monde-là, et pour nous retrouver à nous. Nous-mêmes, on a à se battre nous-mêmes pour ne pas être divisés entre nous. Et on est un peuple qui est fait de différentes origines, et c'est pas simple. Moi, je sais qu'on a une force, on a justement notre différence, c'est une force, nos différences, notre pluralité ethno-communautaire, culturelle, religieuse, tout ça, ça fait une force. Avec le mélange, ça fait une grande force, mais il faut cultiver cette force-là, il faut cultiver le métissage, il faut cultiver ce qu'on est vraiment, ce qui nous constitue. Donc, c'est un travail à faire déjà entre nous, pour nous. C'est ce que je dis dans ma tacité où je me mets debout. Quand je me mets debout, c'est pas en tant que blanc ou rouquin ou des trucs comme ça. C'est d'être aussi bien malbat que caf, que chinois, que arabe, que blanc, que cela.
Moi, pas blanc, non, moi, pas noir. T'as pas moi, si mon histoire. Chinois, arabe, j'aurais comme moi. Moi, nation, bonne foi, en bataille. Chinois, arabes, j'aurais comme moi. Moi, nation, bonne foi, en bataille.
Notre humanité réunionnaise passe par là, à assumer tout ce qu'on est. Pas prendre tout le temps les grandes civilisations, la grande religion, le grand livre, les grands trucs, mais toujours de l'extérieur. Donc on a construit une nouvelle civilisation, si on peut dire, à La Réunion. Il faut qu'on l'assume, il faut qu'on la cultive, il faut qu'on l'arrose, il faut qu'on... Voilà, c'est ce que moi je veux faire. Et à ce moment-là, c'est quand on est bien aussi avec nous-mêmes, qu'on rencontre facilement l'autre. Et sinon, on est toujours en train de se chercher, comme on a quelqu'un au-dessus de nous, qu'on estime être au-dessus de nous, pour un tas de raisons, on va chercher quelqu'un au-dessous de nous. Et au-dessous de nous, ça sera le Comorien, ou ça sera l'Antillais, ou ça sera quelqu'un d'autre. Mais alors que non, il faut juste trouver sa stabilité, sa tranquillité, son humanité, pour devenir tout simplement universel et un humain comme n'importe qui.
Et tout ça, ça se travaille. Comment, pour revenir à ce moment qui était très très beau, comment est-ce que vous avez travaillé justement à vous rencontrer poétiquement, artistiquement? Donc là, on parle au niveau des textes. Comment vous avez fait cet accord-là entre vous trois?
On n'a pas eu beaucoup de rencontres. On a eu des rencontres de textes. On a partagé les textes. On a fait savoir voilà, à Jean et à Noiron, on connaît un peu, on se connaît nous, à proposer un certain nombre de textes. Et après, on a vite agencé, plus ou moins, mise en scène, pas dire, il n'y avait pas beaucoup de mise en scène. Il a été simple et il faut que ça fonctionne, il faut que l'émotion soit présente. Donc c'est ce qu'on a cherché à faire, à donner la sonorité d'abord, le son haïtien, le son rayonné avec ses différentes variantes. Et pour moi, ça déjà, ça suffit déjà pas mal pour créer l'humanité, pour créer la vibration. Bien sûr.
Cette vibration, elle était immédiate. Quand on entend la sonorité des textes dits par Jean d'Amérique, sonorité du créole haïtien, avec la façon d'asséner de Anouaro, votre façon à vous de vivre aussi votre créole réunionnais, ça l'a fait tout de suite?
Oui, je pense que ça fonctionne. Moi, je suis bien comme ça, j'aime bien entendre les langues de façon générale. Ça doit nous toucher, de toute façon, les différences de langue, qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas, on sait que c'est de l'humanité qui est vivante, c'est de la biodiversité, c'est l'humain qui s'exprime dans toute sa splendeur. Donc moi je suis soigné par ça, je suis nourri, guéri avec ça. Et il faut cultiver ça, il faut partager ça pour qu'on soit pas menacé, on se sente pas menacé par une langue ou par un accent ou par un habit, un vêtement, un appel à la prière ou voilà, c'est tout ça qu'il faut. Ne pas avoir peur, comme je disais dans le dernier texte, pas avoir peur de nous-mêmes, pas avoir peur de l'humanité, pas avoir peur du tambour, des esprits, de la transe, ça fait partie de nous, c'est à nous. Il y en a des peuples qui ont perdu ça et c'est malheureux. Donc pour moi, au contraire, il faut retrouver dans toutes ces difficultés, ces variantes, et même avec la peur, même avec tout ça, il faut nourrir, se renourrir pour affronter les peurs et les hontes et les tabous, tout ça. Ça, c'est vraiment la liberté, c'est trouver la liberté.
Dans ces temps troublés et avec tout ça, à quoi sert la poésie aujourd'hui, 2024, vous qui la véhiculez depuis tant et tant d'années?
La poésie, c'est l'innocence, c'est l'enfance, c'est l'inconscience, c'est la liberté. La poésie, c'est la liberté, c'est l'art, c'est vraiment la langue, l'expression, c'est l'âme de chaque endroit, l'âme de chacun qui s'exprime.
Est-ce qu'il y a encore la place pour cette expression-là? C'est ça surtout, on a l'impression qu'aujourd'hui on est pressé de partout, économiquement, financièrement, politiquement, socialement. Est-ce qu'il y a encore la place pour ça?
Heureusement qu'il y a ça pour nous sauver, pour sauvegarder un peu notre humanité, parce que sinon on est dans des calculs financiers, de rendement. Et la poésie, c'est le non-rendement, c'est la non-mesure, c'est pas la quantité, c'est autre chose, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est laisser vaguer l'âme, la langue, l'esprit, on va en gaz, en liberté. Moi, j'ai eu la chance d'entendre la poésie, c'est l'humour, c'est la fantaisie des gens, c'est pas du tout l'ignorance, c'est pas du tout la bêtise, c'est pas du tout les trucs arriérés, c'est pas du tout ça, au contraire. Apprendre des anciens, les anciens ont fait de la poésie avec nous, sans aller à l'école. La poésie, c'est faire danser les mots, faire chanter les mots, faire respirer les mots, soigner par les mots. C'est soigner, vraiment soigner, parce que la voix du conteur qui raconte une histoire avec ses mains, avec sa voix plus ou moins grave, d'ancien, de vieux, tout ça, ça dorlote, ça berce, ça soigne. Donc c'est ça qui est la poésie pour moi.
Merci Daniel Waro, et puis je vais parler un peu avec Jean d'Amérique et avec Anne Waro pour entendre aussi si cette rencontre poétique a résonné de la même façon pour eux. Merci encore.
Merci.
Cache mon fêtage, j'irai si long bordage, coutelet. Kamikashi kavo, peja mon fardeau. Je sais pas quel cavalier qui calpate au dire mon saisie.
L'oreille est hardie. Patrice et Lydie Kozak.
Au creux de notre oreille cette semaine.
Anne Moirod.
Chant d'Amérique. Anne Moirod et Chant d'Amérique, bonjour.
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 Je vous propose de parler de ce moment que vous nous avez fait vivre ici au musée du Quai Branly, un moment intitulé Créolité, qu'on va singulariser et titrer comme étant, on va dire, une rencontre entre la poésie haïtienne et la poésie réunionnaise, entre le créole haïtien, le créole réunionnais, le tout accompagné d'un troisième acolyte qui est Daniel Waro, que l'on vient d'entendre dans ce podcast L'Oreille est hardie. De votre point de vue, voilà, cette rencontre qui est orchestrée par le musée s'est déroulée comment ?
J'ai beaucoup aimé entendre les textes un autre créole résonner. C'est une très belle découverte. D'entendre la poésie de Jean. Et puis même en français, c'est comment aussi, quels sont nos motifs, nos leitmotifs, de quoi on parle, qu'est-ce qui anime nos quêtes. J'ai trouvé qu'il y avait des correspondances, qu'il y avait des échos en tout cas, beaucoup d'échos.
Jean, de votre côté ?
Oui, c'est une belle rencontre pour moi parce que je connaissais le travail de Anne et de Daniel de loin, j'écoutais, mais se rencontrer et partager ce moment aussi nous a connectés d'une autre manière. Et dans leur créole, le créole réunionnais, qui n'est pas exactement le même que le créole d'Haïti, mais il y a une musique, il y a un paysage qui traverse les textes qui résonne pour moi. J'étais très attentif à ça dans les textes. Certains mots qui renvoient à des paysages, j'ai l'impression qu'ils font écho à une sorte d'identité commune qui est peut-être très ancienne, mais j'ai senti ça. On a vibré dans cette musique commune.
Il y a vraiment une forme de musicalité dans ces deux poésies-là, dans ces deux poésies haïtiennes et réunionnaises.
Oui, pour moi, il y a beaucoup de choses qui résonnent, en fait. Et je trouve ça important, d'autant plus en étant en France, de faire entendre ça ici, parce que faut pas oublier que ce sont des langues qui sont nées par résistance à une langue coloniale, le français. Et du coup, ces langues portent une autre force, parce qu'elles naissent d'une révolte, parce qu'elles naissent d'un cri. Et comme dit Anne dans un de ses textes, un cri est un cri. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça porte une énergie qui dépasse les mots, tout simplement. Ça porte une histoire, ça porte une charge politique. Donc oui, c'est important de croiser ces mondes. Et que ce soit le créole haïtien ou le créole réunionnais, j'ai même l'impression que je ne comprends pas forcément chaque mot du créole réunionnais qui sont prononcés dans les textes de Anne et Daniel, mais je comprends tout parce que c'est une langue que mon corps connaît quelque part, peut-être dans un temps ancien, mais mon corps ressent cette langue. Du coup, je vis leurs mots, je vis leur musique, même si je ne comprends pas certains mots directement.
C'est exactement ce que j'ai ressenti quand tu as fait le texte Dodo ti petite, rêve ti moun.
Oui.
Parce que c'est ça, je comprenais tout sans connaître les mots. Et simplement, c'était évident. Ça parle à un endroit où il y a quelque chose de commun et ça, c'est naturel.
Comment est-ce que vous avez fait le choix des textes ? C'est une résonance toujours liée à la musique ou vous avez cherché des thématiques communes dans ce que vous avez fait ? Et là, je vous vois sourire parce que je sens que tout ça, c'est fait beaucoup dans l'improvisation, c'est ça ?
Alors, en vrai...
Nous exigeons la vérité.
Non, ça s'est fait d'une belle manière, parce que chacun est arrivé avec son univers. C'est-à-dire, justement, on n'a pas cherché, par exemple, à imposer un thème pour que tout le monde écrive quelque chose là-dessus. Ça aurait pu être mécanique aussi, enfin, comme ça aurait pu être bien, mais je pense que c'était bien que chacun reste ce qu'il est, ce qu'elle est, et on vient avec nos univers qui sont différents. Mais dans la rencontre, on a trouvé les résonances. La première fois qu'on s'est rencontrés ici pour travailler ensemble, ouais, je pense dès les 5 premières minutes, on commence à mettre en bouche les mots. On dit « Ah, mais tel texte résonne avec tel texte, il y a telle musique qui peut continuer telle autre musique. » Donc pour moi, c'était une vraie rencontre en fait.
Comme Jean disait, on est venu avec ce qu'on était, c'est-à-dire nos textes qui nous représentent. Et dans cette rencontre-là, ce qui s'est passé, c'est que c'est comme une carte d'identité qu'on avait chacun, ou je sais pas comment dire, mais, et puis on se présente, alors on commence par dire, bah, j'aime telle chose, et puis l'autre, ça rentre en résonance, ah oui, moi, je pense ça de telle chose, et puis c'est ça que je trouve aussi très intéressant, c'est de pas chercher à toujours faire des fusions, ou toujours chercher que le thème soit les mêmes, que les choses, qu'il y ait une cohérence à tout prix, qui nous pète à la figure, qui soit absolument explicite. Ce que j'ai trouvé chouette, c'est que justement, on découvrait l'univers de chacun, et que même si nos thèmes ne sont pas les mêmes, il y a des endroits où toute lutte se ressemble, où tout combat et toute poésie est politique. Donc quand on est à fond dans notre combat chacun, il y a forcément des résonances, et c'est comme ça aussi qu'on va vers l'autre. C'est-à-dire qu'en faisant en sorte que nos combats ne deviennent pas des dogmes, mais deviennent des façons d'approcher l'autre pour lui demander où est ta part d'humanité, où est-ce que tu as besoin que je te rencontre. Enfin, je pense que c'est plutôt ça.
Vous parlez de combat, on s'est tant troublé à travers le monde, avec aussi les rapports qui existent entre vos pays respectifs, par exemple, et la France, et la façon dont ils cherchent à exister, à faire exister aussi leurs traditions, leur culture, leur langue, etc., etc. À quoi sert la poésie ? Sert-elle plutôt encore à quelque chose aujourd'hui ? On a l'impression qu'il n'y a plus vraiment de place pour...
Non, la poésie, en tout cas comme moi je la vis ou comme je vois que Daniel ou Jean d'Amérique le vivent, c'est une nécessité d'abord d'écrire. Parce qu'en fait, la poésie te permet, tellement d'abstraction te permet, juste en te laissant porter par les mots, de trouver ton message, de trouver ce qui te fait mal, de chercher où se trouve ta honte. Et quand tu as trouvé et tu as identifié de quoi tu as honte, tu peux creuser. En fait, c'est un outil de travail, la poésie. C'est un outil pour se connaître soi et pour se surprendre. C'est magique. C'est-à-dire qu'il y a tellement de façons de la pratiquer, tellement de façons de la faire surgir, et c'est toujours une surprise. Le poète, il est sans arrêt surpris par ce qui advient, et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire qu'on n'a pas la nécessité toujours de passer par quelque chose de cérébral et de construit. On peut le faire aussi en poésie, mais je trouve qu'en tout cas dans ma pratique de la poésie, ça passe par le corps, et c'est le corps, le son, la sonorité qui me dicte. Et la seule raison pour laquelle je chante parfois les textes, c'est parce qu'ils sont durs à dire et que la honte, j'ai pas réussi à creuser assez loin et que j'ai besoin de le maquiller avec une mélodie souvent douce qui vient contraster avec ce que je dis. Donc plus c'est dur, plus ça va être doux à chanter.
Et de temps en temps, un cri.
Voilà, le cri se module, j'essaye de voir. Mais le cri, c'est la première réponse, c'est-à-dire c'est la première nécessité. Là, quand tu as mal, quand tu es attaqué dans ton intégrité, physique, morale, intellectuelle, peu importe, tu peux pas formuler. D'abord, c'est juste la douleur, donc c'est ça qui est viscéral, c'est-à-dire que la douleur a besoin de sortir. Et c'est pour ça que parfois, passer par nos langues, c'est hyper important, parce qu'en français et en créole, même si on porte les deux langues en nous, on ne dit jamais la même chose. Je fais l'exercice personnel sans arrêt d'adapter mes textes dans l'une et l'autre langue, que je commence par écrire en créole ou en français. Systématiquement, je vais l'adapter dans l'autre langue. Et ce que je remarque, c'est que je n'ai jamais tout à fait le même positionnement dans la langue française ou dans la langue créole. En créole, ça va être beaucoup plus frontal, ça va être plus dur parfois à entendre. Il n'y a pas du tout de notion de pardon. On part de la blessure, même s'il y a des choses très belles. Je peux parler d'amour, je peux parler de plein de choses, mais c'est très corporel, c'est plein de sueur, c'est plein de poussière. Le corps est engagé à 100%, il danse dans ces mots-là. Alors qu'en français, je vais... parfois avoir tendance à jouer avec les mots d'une certaine façon, mais surtout à adopter un positionnement qui est plus en recul, qui est plus éloigné. C'est-à-dire comme si c'était une autre personne. C'est un autre filtre. Une langue, c'est un filtre. De toute façon, on voit la vie à travers des couleurs précises, des expressions, des façons de vivre. Et quand j'adapte en français, souvent, par exemple sur les notions d'inceste que j'aborde, en français, il y a la notion de pardon et même d'amour possible entre ce père et sa fille, alors qu'en créole, c'est totalement inexistant. Et c'est la même personne qui l'écrit. Et je le pense comme ça dans chaque langue, enfin différemment dans chaque langue, et les deux sont vrais.
Et ça vous parle, Jean d'Amérique ? C'est aussi, sur votre façon d'écrire à vous, vous écrivez beaucoup en français, il y a aussi cette dualité dans les langues quand vous écrivez, vous ?
Oui, il y a toujours un aller-retour. Moi, c'est vrai que j'arrive pas forcément à traduire du français au créole et vice-versa, mais le créole nourrit beaucoup le français que j'écris. C'est-à-dire, je dis même que je n'écris pas la langue française. J'écris dans un français qui est le mien, qui est nourri de mon être haïtien créole. Parce que mon imaginaire premier, qui est haïtien, est directement lié à la langue créole. Ça veut dire que les paysages de chez moi, comment on vit, comment on occupe l'espace, comment on parle, tout ça, même si j'écris en français, je suis habité par ces mondes. Donc, ils vont former une sorte de musique souterraine qui vont donner un bruit de fond créole. C'est comme ça que je le sens. Et des fois aussi, je peux, pour pouvoir transmettre du coup une image ou une part de cet imaginaire, des fois je garde quelque chose qui vient du créole, que je vais écrire apparemment en français, mais qui n'est pas vraiment du français. C'est comme si je prenais l'image en créole que je mettais dans le français pour ne pas perdre toute la profondeur de cette image. Parce que si j'essaie de la traduire, ce sera pas la même pensée, ce sera pas la même parole. On parlait de cri aussi tout à l'heure. J'ai l'impression que mon cri, du coup, même si avec la poésie, je vais le travailler d'une manière pour faire ressortir quand même voilà, cette énergie, cette colère qui me porte et qui me fait écrire, qui est viscérale. Mais en créole haïtien, c'est un autre mouvement. Je sais pas comment dire. C'est comme si c'est déjà connecté à ce cri, en fait, et oui, je vais pas utiliser.
L'histoire commune aussi, c'est le vaisseau. J'ai l'impression que le créole, il peut être comme le moyen de. Parce qu'il a aussi cette histoire de mépris, de dénigrement, de son état, son histoire, quoi. Ce qui porte intrinsèquement, c'est qu'il faut exister malgré les autres. Et puis c'est des langues qui se sont forgées de cette lutte totalement physique aussi, physique, mentale, idéologique, identitaire. Donc elle porte tout ça. Donc forcément, peut-être quand on a des blessures ou des colères, quand on a mal quelque part, ou quand l'urgence est là en tout cas, j'ai l'impression qu'elle est forcément connectée d'abord à la langue, au créole, parce que ça porte tout ça en elle, dans sa fabrication même.
Après, il y a des écrivains, écrivaines, je trouve, qui arrivent à capter quelque chose avec les deux, justement. Je pense à Chamoiseau, Patrick Chamoiseau, je pense à Franck Etienne, qui ont vraiment réussi à imbriquer les deux et qui font que on garde toutes les images fortes qui viennent du créole ou du paysage caribéen. Et en même temps, ça emprunte des outils aussi aux Français, parce que comme on est peuplé de ces deux langues, du coup, ils arrivent à capter un endroit commun où ils gardent le cri vivant.
J'enlève ma peau et je verse un peu de sang pour ma ville. Je lève mon drapeau blanc et je laisse un peu descendre ma vie du ciel de la guerre, du sel de ma terre. Je goûte à chaque fois que le désespoir me harcèle. Coupé du soleil, il ne reste de ma vie qu'une parcelle. À chaque gamin, une page de vie sale. Car ici, il n'y a pas d'âge pour assassiner. T'étonne pas que c'est avec des balles qu'un gosse rend hommage à sa cité. Je suis un peu trop pincé entre le marteau et l'enclume, voyant des rêves gâchés au portail et au gan. Port-au-Prince est gravé dans ma peau et ma plume.
Haïti connaît, voilà, une situation très très dure. Moi, je veux savoir quelle est la place de l'artiste aujourd'hui dans ce genre de moment-là, la place du poète en particulier. Qu'est-ce qu'il peut faire?
Je pense qu'en tout temps, l'artiste que je suis a envie, a besoin, se dit même qu'il doit se lever et parler, qu'il doit crier. Donc, moi, par rapport à ce qui se passe en Haïti et même d'autres choses qui se passent dans le monde qui peuvent me toucher d'une manière ou d'une autre, j'ai toujours envie de crier, en fait, face à ce qui ne va pas. Parce que déjà, le pays d'où je viens, Haïti, mon histoire est traversée d'un cycle d'injustice. Et donc, quand on est dans ce genre de situation, pour s'en sortir, ben, on ne peut pas rester les bras croisés, on ne peut pas rester la bouche fermée. Il faut parler, il faut nommer les choses pour essayer d'avancer. Sauf que je ne voudrais pas qu'on comprenne aussi qu'il faut se cacher derrière une image d'artiste. Parce que je pense qu'avant d'être artiste, on est des citoyens, des citoyennes, et donc qui sont appelés à agir de plein d'autres manières aussi. Donc, comme citoyen, comme être humain, on est face à une responsabilité par rapport à ce qui arrive à l'humanité, dans quel que soit le lieu, que ce soit en Haïti, que ce soit en Palestine, que ce soit en France, on est appelé à agir, en fait. Et donc, le poète, l'artiste, peut donner voix, peut-être, à ça de manière plus large et plus forte pour appeler les autres, c'est-à-dire appeler les autres consciences.
tout cas, merci pour cette rencontre offerte ici dans le cadre du musée du Quai Branly, rencontre intitulée Créolité, qui a donc lié le poète haïtien Jean d'Amérique, la poétesse Anne Waro de La Réunion, ainsi que son compatriote réunionnais, la légende du Maloya, Daniel Waro. Merci encore d'avoir mis vos mots, vos pensées, vos sentiments, vos réflexions au creux de notre oreille cette semaine.
Merci en pile.
Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur lapremière.fr pour la réécoute de ce podcast. Restez hardis, Moussaillon. À la semaine prochaine.